VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Et bienvenue à l'édition du mardi 22 septembre 2015, plein feu sur l'actualité au Burkina Faso. Les chefs d'État de la CEDEAO, toujours en conclave dans la capitale nigériane, doivent se prononcer sur l'accord de sortie de crise. À Ouagadougou, les forces militaires, RSP et armées loyalistes disent vouloir éviter un bain de sang.
Les éléments du mouvement de sécurité présidentiel sont confinés avec leur chef, le général Gilbert Diédé, au niveau du palais présidentiel.
Dans les rues de la capitale, les Burkinabés ne cachent pas leurs sentiments vis-à-vis du putsch et de la médiation ouest-africaine.
Le peuple burkinabé n'a pas été associé. Les autorités que nous reconnaissons n'ont pas été associées.
Ailleurs dans le monde, nouvelle réunion ministérielle à Bruxelles sur la crise migratoire. Les dirigeants de l'Union européenne se rencontrent demain.
Washington se prépare pour une visite historique du premier pape latino-américain de l'histoire. François arrive ce soir dans la capitale américaine à son retour de Cuba.
Tout le monde a les yeux tournés vers Abuja, où se déroule en ce moment le sommet de la CEDEAO consacré à la crise burkinabé. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest sont toujours en conclave. On fait le point avec Nicolas Pinault.
Oui, l'organisation sous-régionale est sous pression après le projet d'accord dévoilé ce week-end à Ouagadougou par Macky Sall et Yayi Boni. Le chef de l'État sénégalais, président en exercice de la CEDEAO, a été très critiqué pour avoir proposé l'amnistie pour les putschistes. Je vous rappelle que le projet d'accord de sortie de crise prévoit notamment la restauration des autorités de transition au Burkina Faso, mais aussi, et c'est là le problème, l'amnistie des putschistes et la réintégration des partisans du président déchu Blaise Compaoré lors des prochaines élections législatives et présidentielles. Conséquence, ce projet d'accord a donc suscité la colère de la société civile et de l'opposition burkinabé. En ouverture du sommet, à Abuja ce mardi, Macky Sall a appelé l'ensemble des intervenants à prendre leurs responsabilités. « J'alerte solennellement notre sommet sur la gravité de la situation au Burkina Faso. Il y a urgence à agir pendant qu'il est encore temps pour éviter l'impasse et le chaos », a-t-il souligné. Le président sénégalais a lancé un appel à toute la classe politique, à toutes les forces vives du Burkina Faso et au peuple burkinabé tout entier pour attendre les décisions qui seront issues de ce sommet, alors que tous ceux qui attisent le feu et poussent au chaos arrêtent et que chacun fasse son examen de conscience devant l'histoire, a-t-il souligné. Le général Gilbert Diendéré, réfugié au palais de Kossiam, avait annoncé qu'il se rangerait derrière les décisions qui seront prises par la CEDEAO. Il faut donc attendre encore pour voir s'il tiendra parole.
Merci Nicolas. Alors que pensent les citoyens burkinabés du sommet de la CEDEAO? Écoutez quelques impressions au micro de notre correspondant Zoumana Wonogo.
Est-ce qu'on peut raser la tête de quelqu'un derrière lui?
Le peuple burkinabé n'a pas été associé. Les autorités que nous reconnaissons n'ont pas été associées. Et même le président n'a pas été associé. Et alors, on entend des déclarations à gauche, à droite, vraiment, ça nous fait honte. Alors, on ne comprend pas les réactions de la CEDEAO. Ou bien c'est un syndicat des chefs d'État, ou bien des gens qui ont des comptes à régler avec le Burkina Faso. La solution sera trouvée bientôt. Mais vous allez voir que les protagonistes, là-même, ils vont se lasser, ils vont laisser... C'est eux-mêmes qui vont se trucider dedans. Ils déclarent qu'il y a eu quoi dedans et qu'il y a un mort, non. C'est eux qui vont fomenter leur coup dedans et puis ils vont se corriger dedans. Nous avons espoir que ça va aller.
Nous attendons seulement une solution qui sera trouvée. Que ce soit de la CEDEAO ou bien que ce soit parmi leurs échanges, nous attendons seulement une bonne solution, c'est tout. Dans tous les cas, qu'il y ait confrontation, il n'y ait pas confrontation. Nous voulons qu'il y ait une solution heureuse seulement. Mais si on peut éviter la confrontation, c'est encore mieux.
Burkina Faso est un pays souverain. Abuja n'a rien à voir à décider. Il ne peut pas décider pour nous. On ne peut pas s'en sortir sans une concertation de Burkinabé. On ne va pas discuter avec quelqu'un qui a une arme. L'essentiel est que la démocratie soit rétablie.
Et nous, on est fatigués de eux.
Ils n'ont qu'à faire pardon seulement. Ils n'ont qu'à s'entendre, tout ça. Et c'est mieux. S'ils s'entendent, c'est mieux pour les Burkinabés. Mon souhait, c'est qu'ils s'entendent. Ils ne veulent pas la guerre dans ce pays-là.
Propos recueillis par Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
Faisons maintenant le point sur la situation dans la capitale burkinabé où les forces militaires loyalistes sont arrivées hier soir et dans le camp de l'état-major des armées et dans le camp du général Diendéré. Les différentes déclarations appellent à une solution pacifique. Il faut éviter une confrontation entre frères d'armes. Nous avons sur place Issa Napon qui nous parle tout d'abord des forces loyalistes et de leur position.
Eh bien, il faut dire qu'à ce moment, les forces en présence sont une partie autour de la capitale, une autre partie est à l'intérieur, soit au camp Sangoulé et Lamizana à l'ouest de la capitale, soit au niveau de Camp Guillaume où précisément des manifestants étaient portés ce matin, qui voulaient encourager donc le contingent arrivé de Bobo Dioulasso à aller à l'assaut de Kossiam, mais un vœu qui tarde visiblement à se manifester, à se réaliser donc pour ces populations-là.
Vous venez de nous parler donc de l'armée loyaliste. Que fait le régiment de sécurité présidentielle ?
Les éléments du mouvement de sécurité présidentielle sont confinés avec leur chef, le général Gilbert Diédé, au niveau du palais présidentiel de Kossiam, avec armes et bagages.
Quelle est donc l'ambiance dans la rue ?
Il n'y a pas grand monde, comme une ville fantôme. Quelques commerces ont ouvert rapidement pour permettre aux populations de se ravitailler. La grève qui avait été décrétée par les centrales syndicales est véritablement suivie et personne ne va au travail. La télévision diffuse des documentaires et de la musique, idem pour la radio. Et je crois que les populations qui ont reçu donc un mot d'ordre de rentrer à la maison pour être à l'abri en cas de confrontation sur le projet d'accord qui avait été arraché pratiquement à Ouagadougou. Les points de ce projet d'accord qui sont décriés par la rue, à part donc ces militants qui se sont déplacés en fin de matinée devant le camp Guillaume Ouédraogo face à la place de la Révolution pour leur demander donc de monter à l'assaut de Kossiam. Mais sinon, dans la ville, c'est calme.
Merci Sanapon, un de nos correspondants au Burkina Faso.
Dans les rues de Ouagadougou, nombreux sont ceux qui rejettent le coup de force de Gilbert Diendéré. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Éric Zabsonré, un habitant de Ouaga, très remonté contre le général.
Nous vivons une situation déplorable avec le général Diendéré, que nous appelons aujourd'hui général Karanga. Karanga veut dire quelqu'un qui est nuisible. Aujourd'hui, le peuple tout entier est mobilisé pour chasser Diendéré. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, les différents crimes que le général Diendéré a commis depuis Sankara, avec Blaise, les différents crimes au Burkina Faso, fait qu'aujourd'hui le peuple en a marre de cet homme-là. Aujourd'hui, tout le monde, les gens sont tirés à la maison, attendant que l'armée loyaliste intervienne. Vous savez déjà, on parle des dojos, il y a des populations civiles qui sont très armées, très puissantes, et ces gens viennent à Ouagadougou disant pour aller déloger le général Diendéré.
Donc vous avez le sentiment que votre révolution du 31 octobre 2014 n'est pas terminée ?
Effectivement, notre révolution n'était pas terminée parce que comme le RSP a intervenu et que Blaise est parti, donc on est resté à mi-chemin. Mais cette fois-ci, je pense que le peuple ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout parce qu'il faut que l'on retienne. Il n'y aura plus de RSP, le RSP sera dissous, démantelé complètement. Il faut également retenir que le CDP et tous ses alliés de la Blaise majorité, nous allons les dissoudre. Il n'est même plus question que ces gens-là qui ont commis des crimes économiques, des crimes de sang, continuent à vouloir gérer les hommes au Burkina Faso.
Pourtant, la médiation de la CEDEAO, notamment le président sénégalais et le président béninois, dans le pré-accord, sont prêts à leur accorder l'amnistie et que les candidats du CDP puissent participer aux élections.
Mais nous avions suivi cela, mais nous savions que la CEDEAO, c'est une machination de la France. Hein, de M. Boni Yayi et le président sénégalais. Ils n'ont pas contacté le peuple, ils n'ont pas écouté le peuple. Ils ne se sont même pas adressés au président du CNT, ils ne se sont pas adressés au premier ministre Isaac Zida, ni au président de transition Michel Kafando. Cela voudrait dire quoi ? Ça veut dire que la CEDEAO est venue simplement pour avaliser ce que Diendéré a voulu. Donc la CEDEAO n'a même pas condamné le coup d'État. Cela voudrait dire que la CEDEAO est de mèche avec le CDP, est de mèche également avec le général Karanga, le général Diendéré. Le peuple ne peut pas accepter une amnistie dans ces circonstances-là. Il y a eu beaucoup de morts et ils ont continué à tirer sur les populations. Des enfants sont morts. Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est inadmissible.
Des négociations ont été entamées pour la reddition des putschistes de la garde présidentielle après l'entrée sans résistance dans la nuit de lundi à mardi de l'armée loyaliste dans Ouagadougou. Il faut dire que les putschistes campent toujours à Kossiam, le palais présidentiel. Le colonel à la retraite, Lona Charles Ouattara, explique qu'il y a des accointances entre les hauts gradés de l'armée et le général putschiste.
Selon mon analyse, je pense que chef d'état-major général des armées, le général Zagré et le général Dengré Gilbert, les deux promotionnaires d'école. Ces deux jeunes que moi-même j'ai commandés en 79 quand ils venaient juste d'avoir le bac. Donc il doit y avoir une certaine forme d'amitié entre ces deux officiers généraux-là. Et par ailleurs, je pense que l'état-major général n'était pas très opérationnel, en ce sens que Zagré a été probablement, sa promotion a été probablement suggérée par le général Dengré Gilbert lui-même.
Et beaucoup disent que ces chefs de corps sont d'une autre génération, hein, que c'est les officiers très jeunes qui ont mis la pression sur des gens comme Zagré, le chef d'état-major.
Mais c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. D'ailleurs, tant mieux, parce que tous ces généraux-là, c'est, pour ma part, c'est les généraux qui ont été faits par Blaise Compaoré, c'est pas très brillant. Hein.
On a toujours dit hein, que le RSP, c'est la branche de l'armée la mieux équipée, la mieux entraînée, en sorte l'armée d'élite du Burkina, ce que vous ne partagez pas.
Alors moi, je ne partage pas cela. Peut-être qu'elle est la mieux équipée à la faveur des événements, des émeutes de 2011. Les affaires des armées, le reste de l'armée. Et entreposer l'ensemble de l'armement au RSP, mais ça s'arrête là. C'est absolument surnaturel qu'une poignée de 1200 bonhommes puisque c'est à peu près l'équivalent de deux bataillons qui constituent le RSP. C'est très difficile que ces 1200 hommes puissent s'opposer de manière efficace à 10 000 hommes.
Le colonel à la retraite, Lona Charles Ouattara, joint par Bagassikoura dans l'ouest du Burkina.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Que se passe-t-il à Ouagadougou entre le régiment de sécurité présidentielle, l'armée régulière décidée à mettre fin au coup de force du général Diendéré? Quelle voie de sortie possible? Dans votre émission interactive aujourd'hui à 21h temps universel sur VOA Afrique, Eric Manirakiza sera en votre compagnie. Soyez nombreux à l'écoute. Vous pouvez aussi réagir sur notre page Facebook voaafrique.com. Rendez-vous à 21h.
Dans le reste de l'actualité, attentat suicide dans l'extrême nord du Cameroun. Deux femmes kamikazes se sont fait exploser dans le village de Gouzoudou, dans l'arrondissement de Kolofata. Elles visaient manifestement un marché, mais elles n'ont pas pu atteindre leur cible. L'AFP, citant des sources concordantes, fait état de deux agriculteurs blessés.
Crise électorale au Burundi, l'influente conférence des évêques catholiques du Burundi a appelé à la reprise d'un vrai dialogue, n'excluant aucun acteur afin d'éviter un retour de la guerre civile.
Pas de libération anticipée pour Thomas Lubanga. Les juges de la Cour pénale internationale ont refusé de réduire la peine de l'ancien chef de milice congolais. Souvenez-vous, il avait été condamné en 2012 à 14 ans de prison pour crime de guerre en Ituri, dans l'est de la RDC.
Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles pour discuter d'un plan de quota controversé. Ce plan prévoit de répartir 120 000 migrants entre les 28 nations du bloc. Le président Abd Rabbo Mansour Hadi, qui vivait en exil, est de retour au Yémen après 6 mois en Arabie Saoudite. Il est arrivé ce soir à Aden. Et visite du chef de l'État chinois aux États-Unis. Xi Jinping est arrivé ce mardi à Seattle, dans le Nord-Ouest. Il sera reçu en fin de semaine par Barack Obama à la Maison-Blanche. Et scandale Volkswagen qui n'est pas prêt de s'éteindre aux États-Unis. Morgan, la compagnie est accusée de tricherie relative aux tests anti-pollution. Et une dernière nouvelle sur le Burkina.
Le porte-parole du CND, le camp du RSP, a informé notre correspondant ce soir que les présidents du Togo, du Bénin, du Nigeria et du Sénégal arrivent ce soir à Ouagadougou juste après le sommet.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin d'Orsil et Morgane Guiriac en votre compagnie, place au dossier du jour.
Le pape François arrive cet après-midi à Washington DC, venant de Cuba pour une tournée qui inclut aussi d'importantes escales à Philadelphie et à New York. Qu'attend la communauté catholique, l'Amérique de façon générale, de cette visite du souverain pontife? Et que dire de ses positions critiquées par certains conservateurs sur le changement climatique, le capitalisme, l'avortement et les homosexuels? Idrissa Sédoudia a contacté à ce sujet le père Gérald Murray, docteur en droit canon et curé de la paroisse La Sainte Famille à New York.
Je pense que c'est une grande joie, j'en suis sûr, au sujet des catholiques. Nous sommes très fiers d'avoir le Saint-Père avec nous. Mais comme vous savez, l'Amérique en général, c'est un pays religieux. Alors je pense qu'il y a un grand intérêt de part de tous les Américains pour la venue du pape et d'écouter ce qu'il va nous dire et de voir la vitalité de la vie chrétienne où les catholiques vont se rassembler, écouter et prier avec le pape. Et je pense aussi que son message au Congrès des États-Unis et aussi aux délégués à l'ONU à New York seront des grands moments pour voir ce que le pape considère les priorités importantes pour notre monde.
Comme vous le savez, mon père, il y a déjà des critiques. Je ne dirais pas que tout le monde critique le pape, mais il y a des conservateurs qui n'aiment pas sa position sur l'environnement. Il met l'accent sur l'environnement. Et les positions plutôt en flèche qu'il a adoptées récemment sur l'avortement, les homosexuels et le capitalisme. Alors, comment est-ce qu'il compte faire face à ce genre de critiques?
Bien, c'est intéressant parce que le pape, vraiment, a entré dans le débat sur le climat et le chauffage et tout ça, et aussi dans le domaine d'économie et les critiques, ce qu'il considère capitalisme sauvage. Et je pense que ces gens en Amérique ne sont pas d'accord avec son point de vue. Ils ont l'opportunité d'écouter le pape, mais aussi d'exprimer les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas suivre ce chemin du pape. Mais à la fois, en ce qui concerne la doctrine catholique, je pense qu'il va trouver en Amérique des fidèles qui soutiennent la doctrine, spécialement au sujet de l'avortement, sur la nature du mariage donné par Dieu. Sur la dignité de l'homme et aussi la liberté religieuse qui est un héritage que Dieu nous a donné. Alors il y a des moments, et je sais qu'il y a des critiques dans la presse, mais le pape, il veut vraiment une discussion. Il nous a dit plusieurs fois qu'il n'aime pas ce que nous appelons en anglais les yes men, les gens qui disent toujours oui.
Les bénis oui.
Oui, exactement. Il veut les gens qui vraiment se sont libres d'exprimer leur point de vue et de le soutenir avec des raisonnements développés.
Le père Gérald Murray, docteur en droit canon, curé de la paroisse La Sainte Famille à New York.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur la visite historique du pape François aux États-Unis. Un voyage rempli de symboles et de défis dans un pays où la population catholique est en baisse et marquée par les excès du capitalisme et les injustices sociales. Quel doit être, selon vous, le message du pape aux Américains? Est-ce l'occasion également d'avoir une pensée spéciale pour l'Afrique avant son voyage en novembre? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Le président chinois Xi Jinping a entamé ce mardi une visite d'État de 3 jours à Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis. Ces discussions porteront sur des domaines de coopération comme la stabilité de l'économie mondiale ou la lutte contre le réchauffement climatique. On s'attend aussi à ce que des sujets litigieux comme la lutte contre la cybercriminalité soient également abordés. Les précisions de Michel Joseph.
Ces derniers temps, la Chine fait l'objet de sévères critiques ici aux États-Unis, notamment en rapport avec les cyberattaques contre des cibles gouvernementales et privées américaines. Les disputes territoriales entre Pékin et ses voisins sont aussi une autre épine dans les relations avec Washington. Qu'à cela ne tienne, tout sera mis en œuvre pour que la visite du président chinois se déroule sans heurts, explique Jun Sun, chercheuse principale au Stimson Center de Washington. C'est la première visite d'État de Xi Jinping en tant que président chinois aux États-Unis et ils devront créer une sorte de positivité autour de ce voyage. Pour le chef de l'État chinois, il s'agira de démontrer à ses compatriotes qu'il est en position de négocier avec les Américains. L'un des domaines de coopération entre la Chine et les États-Unis est la lutte contre le réchauffement climatique. Américains et Chinois ont fait état de grands progrès dans ce domaine, a expliqué Jun Sun du Stimson Center de Washington. Autre sujet qui sera discuté à Washington, la Corée du Nord, a souligné la chercheuse. Dans son entretien avec le Wall Street Journal, en début de journée, Xi Jinping a réitéré son engagement en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Selon Jun Sun, les deux pays sont impatients d'œuvrer à la stabilisation de l'économie mondiale et le développement international émerge comme un nouveau sujet de discussion entre eux. Du fait de leurs différences de perspectives et de critères, la coopération en matière de développement international a fait défaut dans ses relations bilatérales et nous sommes impatients de voir ce qu'ils se proposent de faire. Pour leur part, les États-Unis vont poser des questions à la Chine sur les disputes maritimes et les cyberattaques, deux sujets sur lesquels les Chinois sont réticents à clarifier leur position. Spécialement en matière de cybersécurité, parce que les Chinois n'ont pas atteint le niveau technologique des États-Unis et la Chine estime que toute négociation basée sur un déséquilibre en matière de connaissances n'est pas dans son intérêt national.
Au Sénégal, le procès de Hissène Habré se poursuit malgré le silence observé par l'ancien président tchadien devant le tribunal spécial qui le juge. Actuellement, quelques responsables des ONG tchadiennes livrent leurs témoignages. D'après les estimations d'une commission d'enquête du Tchad, 40 000 personnes sont mortes durant le règne de Hissène Habré. Pour la cour de Dakar, la tâche n'est pas facile, d'après l'éditorialiste du site sénégalais Séné+, Momar Sédi Ndiaye.
Les juges pensent effectivement que puisque Habré n'assure pas sa défense, c'est qu'en réalité, il assume sa culpabilité. Ce n'est pas totalement juste, évidemment, parce qu'il aurait fallu que lui-même ait pu dire ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Mais le fait qu'il adopte une position de silence n'arrange pas les choses. Mais évidemment, les juges n'ont pas le choix. Ils sont obligés, effectivement, de poursuivre le procès et faire en sorte que, comme si, effectivement, Habré avait entendu et accepter les accusations qui sont portées contre lui, des accusations tout de même très graves, hein, il faut bien le dire. Hein.
Quels sont les grands témoignages entendus jusque-là?
Bon, les grands témoignages qu'on a entendus jusque-là, c'est les témoignages des responsables d'ONG tchadiennes, de personnalités qui sont dans qui relèvent un peu de la société civile, dont Olivier Berko, qui est un écrivain. Il y a d'autres témoins qui relèvent souvent de la société civile. Pour l'instant, on n'a pas encore entendu d'opposants politiques. C'est plutôt la société civile qu'on entend en ce moment. Hein. Pour l'instant, les opposants politiques au régime de Habré n'ont pas encore pris la parole.
Est-ce que la tâche n'est pas compliquée pour les juges face à Hissène Habré qui refuse de s'exprimer?
La tâche est très difficile parce qu'on ne sait pas si Habré accepte ce qu'on lui repose ou non. Et il n'a pas d'avocat. En fait, ses avocats ne plaident pas pour lui. Et il a refusé les avocats qui ont été commis pour lui par l'État. Donc, il se contente de se réfugier dans un silence profond. Évidemment, pour les juges, c'est très embêtant. C'est comme s'il s'adressait à un mur. Parce que Habré, même s'il a fait baisser un peu la hargne, il s'est quand même réfugié dans un silence profond. Il s'est mis dans ce silence en refusant de parler. Il s'est complètement enturbanné et refuse même de regarder les témoins à charge contre lui. Pour les juges, évidemment, c'est extrêmement gênant parce que quand vous avez un prévenu qui est à la barre et qui refuse de s'exprimer, c'est évidemment très difficile. Vous comprenez qu'ils sont obligés de considérer le silence d'Habré comme une sorte d'acceptation des accusations qui sont portées contre lui.
l'éditorialiste du site sénégalais Séné Plus, Momar Seydine Diaye. La prochaine audience du procès Hissène Habré pourrait avoir lieu après la grande fête musulmane de la Tabaski, probablement au début du mois d'octobre.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Voilà pour nos dossiers du jour. Maintenant, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Claire Morin-Gibourg.
Lutte contre la corruption au Gabon, un ancien ministre de la fonction publique, Serge Maurice Mabiala, membre du parti au pouvoir, a été écroué hier à Libreville pour de présumées malversations portant sur environ 3 millions d'euros, a appris l'AFP de sources judiciaires. Monsieur Mabiala nie toute malversation. Le gouvernement gabonais s'est engagé à plusieurs reprises à lutter contre les détournements de fonds publics, mais à ce jour, peu de dossiers sont arrivés devant les tribunaux du pays. Lutte contre la corruption au Nigeria également. Le président du Sénat, Bukola Saraki, accusé de fausses déclarations de patrimoine, a plaidé non coupable aujourd'hui devant le tribunal du code de conduite du pays, la troisième autorité la plus haute du pays. Le procès a été ajourné au 21 octobre à la demande de l'avocat du prévenu, qui réclamait plus de temps pour préparer sa défense. Ce cas représente un test décisif pour le président Muhammadu Buhari, vainqueur des dernières élections. Investi le 29 mai, le chef de l'État nigérian s'est engagé à lutter farouchement contre, selon ses propres termes, le « démon de la corruption » et à traduire en justice les responsables. Un nouvel hôtel 5 étoiles pour Abidjan. Après la Société des Lagunes, c'est le groupe hôtelier Mövenpick qui parie sur la capitale ivoirienne pour un investissement de 55 millions d'euros, selon nos confrères de Jeune Afrique. Réalisé en partenariat avec Bouygues Construction et la Saprime, l'hôtel devrait ouvrir en 2018 ou début 2019.
Merci Claire Morin-Gibault pour la Minute Éco. Dernière page, l'actualité sportive avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Parlons football, match amical Côte d'Ivoire-Maroc.
Oui, la Côte d'Ivoire sera opposée donc au Maroc en match amical le 9 octobre à Agadir. C'est ce qu'a annoncé la Fédération ivoirienne de football. Les deux sélections sont en préparation en ce moment pour le deuxième tour des qualifications Zone Afrique au Mondial 2018 prévu en novembre.
Dopage dans le foot en Algérie.
Oui, Youssef Belaïli, joueur de l'USM Alger, contrôlé positif, a été suspendu pour 2 ans de toute compétition nationale et internationale pour dopage. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la Ligue algérienne de football professionnel. Belaïli ne disputera donc pas les matchs aller des demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique face au club soudanais Al-Hilal le 27 septembre à Khartoum et le 3 octobre à Alger.
FIFA, premier comité exécutif de l'après-Valke, le secrétaire général.
Oui, le comité exécutif qui s'ouvre ce jeudi à midi et doit se clore vendredi à la mi-journée sera suivi d'une conférence de presse à laquelle le président démissionnaire Sepp Blatter, qui ne s'est pas exprimé depuis la mise à l'écart de son bras droit, a confirmé sa présence. C'est ce qu'a fait savoir la FIFA ce mardi après-midi. Cette réunion de l'exécutif de la Fédération internationale sera supervisée par la loi Marcus Kattner, directeur financier et secrétaire général adjoint. La FIFA a réagi très rapidement à la publication jeudi dernier par la presse anglaise d'accusations selon lesquelles M. Valke serait impliqué dans un système de revente massive des billets au marché noir lors du Mondial 2014.
Et le Qatar a annoncé aujourd'hui son intention d'introduire l'année prochaine, Bagassi, le premier système de contrat électronique pour les centaines de milliers de migrants qui travaillent dans l'Émirat.
Oui, ce système susceptible d'améliorer les conditions d'emploi des ouvriers devrait être en place au premier trimestre 2016, selon Mohamed Al-Ali Mer, chef des relations sociales au ministère du Travail à Doha. Le Qatar a souvent été critiqué, Chérubin, en Occident à propos des conditions d'emploi et de travail des ouvriers sur les chantiers de la Coupe du Monde de football.
Merci, Bagassi Koura. C'est la fin de cette édition, Morgan.
On remercie Lionel Gaïma à la mise en onde, Morgane Guériac et Chérubin Dorcil à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.